Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI. Bien sûr, avec au sommaire de cette émission des Red Devils en forme, une nouvelle victoire et les voilà qui se maintiennent juste derrière les Citizens. Manchester United suit pour l'instant le rythme de Manchester City. Mais les hommes de José Mourinho tiendront-ils? L'avenir de l'entraîneur portugais s'écrira-t-il d'ailleurs en rouge dans le club de l'emblématique Ferguson? Et qu'en est-il de la confrontation Mourinho-Guardiola au royaume d'Elisabeth II? L'arbitrage vidéo à la conquête de l'Afrique, l'assistance technologique pour la première fois en test sur une compétition, le CHAN, qui se déroulera en janvier prochain au Maroc. La CAF et la FIFA main dans la main pour imposer une technique qui fait encore polémique, mais les arbitres africains commencent déjà à être formés. Qui pour succéder au Fenech Riyad Mahrez comme meilleur joueur africain? Parmi les favoris, l'Égyptien Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané, deux Reds d'ailleurs qui jouent ensemble, ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais de Dortmund, lui récompensé déjà en 2015. Le suspense durera jusqu'au 4 janvier prochain. Dans cette émission aujourd'hui, pour évoquer ces sujets, Gilles Verdez, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Radio Foot aujourd'hui. Il y a aussi Nabil Djellit de France Football.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour Nabil, et puis Patrick Juillard de Foot Africa 365, bonjour.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Enfin, Eric Chorinte à mes côtés, bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis nous avons la visite aujourd'hui d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jimmy Algerino, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Radio Foot International. Vous mêlerez au débat aussi, j'imagine que vous aurez des choses à dire, n'est-ce pas?
Sans doute.
Sans doute, oui. On en est sûr. Radio Foot, c'est parti. L'ambiance chaude d'Old Trafford que Sir Alex Ferguson connaissait si bien. Mais pour l'instant, toutes les équipes sont au basque des Citizens, les équipes de la Première Ligue donc. Alors que se déroulait, et se déroule en ce moment d'ailleurs, la 14e journée du championnat en Angleterre, les Red Devils ont montré qu'ils pouvaient, pour l'instant, tenir le rythme fou imposé cette saison par leurs voisins de la même ville, d'ailleurs les autres mancuniens, les Citizens. Hier soir, Manchester United a enchaîné une troisième victoire à Watford, 4-2, dont un doublé d'Ashley Young et un but d'Anthony Martial. L'international belge Romeo Lukaku n'a toujours pas retrouvé le chemin des buts, mais il a fait la passe décisive à Anthony Martial d'ailleurs, et son entraîneur, vous allez l'entendre, il l'encourage, son buteur, et avec humour.
I think he needs a big contract with Boots.
Je crois qu'il a besoin qu'un équipementier le sponsorise car il n'a pas de contrat actuellement. C'est la raison pour laquelle il porte des chaussures noires. Il faudrait qu'une marque lui trouve les bonnes chaussures et lui propose un chiffre acceptable pour qu'il se remette à marquer. Blague à part, il travaille superbement bien pour l'équipe. Je ne le critiquerai jamais pour l'occasion facile qu'il a ratée. Je ne lui mettrai jamais ce genre de pression. Lukaku est un joueur fantastique, un très grand pro, et je ne pourrais pas être plus content de lui.
Gilles, José Mourinho, avant c'était The Special One, maintenant c'est The Special Agent One, c'est ça?
Bon, disons que là où je vous rejoins pour dire que il trouve totalement ses marques, c'est qu'il fait de l'humour, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise avec le club, avec ses joueurs, il chambre un peu Lukaku, mais
on n'a pas l'habitude d'un
non, il se délide.
D'un Mourinho qui surtout qui chambre mais sans deuxième intention ou une certaine amertume dans les propos un peu aigres.
Là, on sent qu'il est à l'aise. Ceci dit, il est quand même à grande distance de City. C'est-à-dire que c'est le special two. Il est très bon, mais derrière Guardiola.
Nabil, cette équipe de Manchester United, elle est évidemment lancée comme toutes les autres à la course au titre, mais elle est encore dans cette course au titre parce que dans les championnats européens, c'est un peu la caractéristique cette année. On en a un qui domine tout et après les autres qui essayent et qui sont déjà parfois très distancés. United est encore là.
Ouais, mais on a surtout l'impression qu'elle est en tête du peloton, quoi, qui chasse Manchester City, qui domine d'un point de vue arithmétique, mais qui domine aussi aussi par la force de l'image et par le contenu proposé par l'équipe de Guardiola, qui en fait avec le Paris Saint-Germain certainement l'équipe la plus en forme actuellement d'Europe. Ensuite, l'ami Mourinho, on va dire qu'il a plus ou moins stabilisé et trouvé une formule qui marche. Il est arrivé, il a démarré un nouveau cycle. Il y a eu une campagne de recrutement plus ou moins réussie. Et cette saison, avec l'arrivée notamment de Romelu Lukaku, il a trouvé en quelque sorte son Drogba de Chelsea, son point de fixation. Il a relancé également Annie la carrière. Enfin, relancé, c'est un mot un peu fort, mais il a trouvé un rôle à Anthony Martial qu'on a vu brillant avec l'équipe de France. D'abord dans un rôle de super sub, ensuite plus comme hier dans un rôle du titulaire. Et pour moi, peut-être ce qui a permis peut-être de trouver un point d'équilibre, c'est un joueur que je considère comme sous-coté dans le football international et qui a été recruté de manière extrêmement intelligente de la part de José Mourinho. C'est le Serbe Matic au milieu de terrain, qui peut s'associer soit avec Fellaini, soit avec Pogba. Donc pour l'instant ça roule. Moi, je les vois pas a priori champion d'Angleterre, mais ils reviennent au niveau auquel ils doivent être. Et puis n'oublions pas également que c'est une équipe qui est qualifiée en Ligue des Champions. Je les vois pas gagner la Ligue des Champions. En revanche, bon courage pour les sortir.
Patrick,
je suis globalement
cette équipe,
d'accord avec ce constat complet qu'a fait Nabil. Il faut quand même distinguer
complet, très long.
Voilà, vous avez compris mon sous-entendu.
Non, mais il faut comme Mourinho.
Voilà, absolument. Vous êtes vraiment fort. Mais il faut vraiment insister sur le fait que c'est une équipe qui a un jeu très difficile à jouer, très coriace. À domicile, en sept matchs, c'est 21 points, donc 7 victoires, sans faute. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Hier, ils ont bien su s'adapter à cette équipe de Watford qui est très joueuse, qui joue avec seulement 3 défenseurs et qui est une équipe très très portée, très déséquilibrée vers l'avant. D'ailleurs, qui est très agréable à regarder jouer. Enfin, c'est un jeu très britannique à l'ancienne, un petit peu, avec beaucoup de longs ballons, beaucoup de vitesse. Et bref, Mourinho, c'est un peu l'antithèse de ce jeu-là. Lui, c'est un coffre-fort un peu ennuyeux et imprenable, mais ça marche bien. L'équilibre est assuré par des joueurs dans toutes les lignes. C'est le contraire de, par exemple, Liverpool, qui a des attaquants exceptionnels et une défense passoire. Là, Manchester United est une équipe équilibrée. Peut-être trop sage, donc pas très sexy à regarder jouer quand on se rappelle du United de Ferguson, mais ça fonctionne.
Eric, peut-être quelques remarques ou quelques chiffres?
Non, on a vu que le match précédent, ils avaient quand même un petit peu souffert pour s'imposer. Il a modifié quand même un peu la composition de l'équipe.
Contre son camp,
il cherche encore un peu sur le plan tactique.
C'est deux matchs en une semaine, là.
Deux matchs en une semaine,
donc
c'est vrai.
Peut-être aussi que c'est lié à ça. Et là, il est en 3-4-3, c'est ça, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est l'idée. Ouais, c'est l'idée. Ouais.
Il s'est calqué sur le schéma de Watford. Ouais, un petit peu.
Avec un Ashley Young, finalement, qui a eu un rôle beaucoup plus offensif.
Et puis, Valencia, un ancien milieu offensif reconverti en latéral droit, qui finalement est dans un rôle qui lui correspond parfaitement de piston sur le côté.
Un autre joueur très sous-coté.
Mais Gilles, on parlait de Romelu Lukaku tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il a marqué lors des premiers matchs et puis il a marqué 8 buts. Là on en est à la 14e journée. Il n'a pas retrouvé le chemin des buts, mais c'est aussi parfois ce qui arrive à un buteur et on y vient souvent.
Oui, mais c'est ce à cause des chaussures.
C'est ce qui manque pour moi à Manchester United. Avec un match de plus, ils ont marqué 10 buts de moins que Manchester City pour une même défense. 8 buts encaissés. Donc il manque quand même cet élément offensif, mais quand Nabil disait il a trouvé son Drogba, doit bondir en nous écoutant. Lukaku, il est quand même que l'ombre de Drogba en ce moment, au niveau puissance, efficacité.
Ouais, bah, je te conseille
il est très loin.
Un élément clé là-dedans, Gilles, c'est que vous parlez des insuffisances certaines de Lukaku, mais il y a un certain Zlatan Ibrahimovic qui va revenir. Ça va peut-être être lui le patron offensif de l'équipe. Hein.
Peut-être, mais il y a un peut-être.
Oui,
et
mais
il y a Martial
aussi. C'est pas à négliger. Hein, c'est pas à négliger.
Jimmy Algerino, comment vous voyez-vous cette équipe de Manchester United? C'est une équipe que vous voyez aller tenir la dragée haute. Le 10 décembre prochain, on aura ce fameux affrontement peut-être important pour le titre entre les deux Manchester.
Et avant, il y aura Arsenal ce week-end.
Exactement,
donc deux gros
en fin
tests,
de semaine.
Hein.
Ouais. Ils ont perdu contre Chelsea, hein, qui est une des équipes de ce peloton d'ailleurs.
Non, enfin, ce que fait Mourinho, je pense qu'il est remarquable dans le sens où il fait progresser Manchester. Le fait que les grands entraîneurs font progresser un club, font progresser une équipe, et c'est son cas. Moi, je pense que pour Manchester, là aujourd'hui, ce qui manque, c'est peut-être Ibrahimovic qui va un petit peu cristalliser les défenseurs, enfin un petit peu l'équipe adverse, et puis surtout être capable de donner de bons ballons, que ce soit à Lukaku, à Martial, qui auront peut-être aussi des occasions peut-être plus simples à mettre au fond, parce qu'après les attaquants ils les ont. Bon, on peut toujours parler de la qualité vraiment de Lukaku ou d'autres joueurs, mais peut-être que dans le jeu, la dernière passe, le centre bien dosé, ça peut être un plus pour Manchester pour pouvoir atteindre.
Mais Zlatan est-il encore l'homme qu'il a été?
Je pense, oui.
Parce que il revient de blessure.
C'est un joueur qui sait s'économiser dans l'effort et qui sait doser les choses en fonction de son état de
qui
forme.
Qui sait revenir aussi, on
et
se
qui
souvient.
Est toujours,
de...
même
au
quand
PSG.
Il n'est pas à 100%, il est toujours utile.
Après, la chance de Lukaku dans ce coup-là, c'est que je pense que Zlatan ne va pas lui savonner la planche parce qu'ils ont le même agent et ça rentre en ligne de compte. Et je me permets de répondre quand même à cette attaque mode Rémi Ngono de notre ami Gilles Verdez.
Si
pour lui situer un peu les statistiques de Romelu Lukaku,
sur cette
même si le football ce n'est pas que des statistiques, en 51 matchs depuis la saison dernière, Lukaku c'est juste 33 buts. Bon, c'est peut-être pas Drogba, mais ça a l'air quand même plutôt pas mal.
Mais Rémi aurait donné le nombre de buts sur corner.
Est-ce que vous voulez les cartons jaunes?
Qui aurait été faux, mais ça serait passé comme ça.
Est-ce que vous voulez les cartons jaunes comme Rémi? 4 cartons jaunes en 2 saisons.
Et t'as pas un petit proverbe pour finir?
Ça manque Nabil.
Pour revenir sur l'attaque de Manchester et particulièrement sur Ibrahimovic, il y a une question qui va se poser pour lui, c'est que je pense qu'il va être candidat à intégrer l'équipe de Suède pour la Coupe du Monde. Moi, je suis pas favorable.
On a tous compris qu'il l'était, non?
Absolument.
Moi,
je suis pas favorable à ce qu'il intègre, mais néanmoins, il va l'être. Et dans ces cas-là, si vraiment il veut disputer la Coupe du Monde, il va falloir qu'il redevienne le grand Zlatan. Si c'est un Zlatan moyen, il sera pas pris aucune chance. Donc ça peut porter Manchester.
C'est pas vrai, Gilles. Excusez-moi d'être en opposition constante avec vous. Un petit Zlatan, c'est un Toivonen sans lui manquer de respect dans chaque jambe qui joue à Toulouse et qui est pas toujours titulaire. Donc Zlatan, c'est plus qu'un joueur. Alors évidemment, pour ceux qui ont qualifié l'équipe.
Oui, mais sauf qu'il revient de blessure, Nabil, c'est peut-être ça l'interrogation.
Et puis qu'un groupe s'est constitué sans lui. Et s'est qualifié sans lui.
Le joueur majeur, on sait qui c'est aujourd'hui en Suède, c'est Forsberg. Mais vous pensez que si vous avez la possibilité d'avoir un Zlatan Ibrahimovic, qui est un joueur hors du commun, vous rejoindre pour un tournoi, vous le prenez ou vous le prenez pas? Moi, je pense que globalement.
En tout cas, l'entraîneur n'a pas spécialement envie, mais peut-être qu'il n'aura pas le choix. Eric?
Non, je pensais que Guinoves aurait pris Zlatan, mais non, mais c'est autre chose.
Il doit être bon à la touche.
Une question. Une question, Patrick. Est-ce que cette équipe, selon vous, cette équipe de la deuxième saison de José Mourinho, ressemble à une équipe de José Mourinho?
Oui, absolument. On sait que José Mourinho, en général, c'est immanquablement un cycle de 3 ans avec lui. La première année, c'est une année de réglage où c'est pas encore achevé. Il veut mettre des choses en place. C'est pas encore à 100% achevé. La deuxième, c'est un petit peu l'apogée. Et la troisième, c'est la crise et le déclin. Et ça s'est très souvent passé comme ça. Il se fait parfois virer en cours d'année 3.
Comme à Chelsea.
Donc oui, elle ressemble à une équipe de Mourinho. C'est une équipe qui n'hésite pas à jouer bas, alors qu'elle vise le titre, mais elle n'hésite pas à jouer bas et à subir l'adversaire, voire à essayer de l'aspirer pour mieux le contrer. Et oui, pour moi, c'est clairement une équipe mourinesque en diable.
Après,
cette équipe-là.
Gilles, on dit qu'il joue justement avec plus de joueurs offensifs, Mourinho, cette fois.
Oui, mais il y a quand même une adaptabilité de Mourinho. C'est là où, pour moi, ce sont deux très grands entraîneurs. C'est là où, pour moi, il y a une différence entre Mourinho et Guardiola. C'est que Mourinho est quand même un entraîneur assez caméléon qui s'adapte, alors que Guardiola ne renie jamais, y compris jusqu'à perdre, ses principes offensifs. Il a acheté des joueurs, il a fait engager des joueurs à Manchester City pour aller dans sa logique. Il va au bout du processus, pour moi.
Bon, mais
c'est
Mourinho
plus un
créateur.
Non, mais Mourinho est un très grand entraîneur.
Il a aussi recruté
Bien sûr, il a pensé dans son équipe.
Oui, mais sauf que Mourinho recrute. Alors, si vous allez au bout de cette logique, Mourinho, il recrute pour ne pas encaisser de but, globalement, et Guardiola pour en marquer. C'est ça, pour moi, la différence entre les deux.
Et ça l'est toujours, alors.
Et toujours. C'est pour ça que Guardiola, pour moi, est au-dessus.
Ouais. Nabil. Après, moi, j'ai des réserves sur la charnière centrale de Manchester City quand ça va s'élever en Ligue des Champions. On en parlera, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Un autre élément qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas oublier du côté de United, c'est aussi qu'ils ont un gardien qui est exceptionnel, qui était quand même courtisé par le Real et qui aujourd'hui, s'il n'y avait pas des problèmes de clause ou de transfert, il serait gardien numéro 1 au Real Madrid. C'est quand même De Gea. Alors, je sais que vous avez des réserves, Gilles, sur Lukaku, mais ils ont quand même ce qui fait souvent les équipes qui finissent sur le podium, voire qui deviennent champions. Elles ont un gardien extraordinaire.
Un taulier au milieu.
Un taulier au milieu. Ils ont une colonne vertébrale. Et puis, ils ont Lukaku. Qui fait plus que le job, et avec des jeunes loups autour, Martial, Rashford,
Lingard.
Mais alors ce qui est étonnant, c'est que c'est une équipe qui avait pris un très bon départ de ce championnat. Elle était d'ailleurs, elle a été première pendant quelques journées. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est enrayé?
Pour moi, c'est pas que ça s'est enrayé, c'est que il y a eu déjà le double calendrier qui a commencé en septembre, mi-septembre, avec la Ligue des Champions. Donc il a fallu, avec un effectif peut-être un peu plus restreint que Manchester City, gérer ces doubles rendez-vous. Et d'ailleurs, on le voit, Mourinho a peut-être fait une petite erreur lors du match à Bâle la semaine dernière, en alignant une équipe à prime qui a finalement perdu. Mm-hmm. Donc qu'il va les garder sous pression jusqu'à la fin de la phase de poule, alors qu'ils auraient pu se qualifier dès la cinquième journée. Mais à part ça, pour moi, il n'y a pas eu de grosse... City qui est monté en puissance, oui, davantage, hein, surtout. Mais
ils ont 2 défaites en 14 matchs, voilà, ce qui n'est pas scandaleux du tout en Première Ligue.
Dont une à Chelsea. Donc
absolument.
Celle de Chelsea, c'est deux monstres qui se font face. Celle qui est ennuyeuse, disons-le honnêtement, c'est celle contre une équipe qui est surprise du côté de la Première Ligue. C'est face à Huddersfield. Mm-hmm. Là, effectivement...
Un peu surpris.
Bon, ils ont laissé des points en route, comme on dit.
On parle de la prolongation du contrat de José Mourinho. Du côté de Manchester aussi, on en parle. Ça serait jusqu'en 2022 pour 72 millions d'euros. Est-ce que on disait que il rêvait d'être choisi, d'ailleurs, quand le premier successeur de Ferguson avait été choisi, il avait été un peu vexé. Gilles, justement, on parle de ces 3 années. Est-ce qu'il est là pour rester cette fois?
Bon. Disons que effectivement, il avait été un peu offusqué de ne pas être choisi. Je dirais pas qu'il a intrigué, le mot manque de noblesse pour lui, mais il a tout fait pour être en première ligne, tout fait pour que son choix soit quasi automatique, obligatoire pour les dirigeants.
Bengale,
ouais. C'est pour ça que maintenant, je ne m'étonnerais pas, et je suis d'accord que souvent il y a des cycles de 3 ans, des cycles mourinistes de 3 ans, je ne m'étonnerais pas là qu'il re-signe un bail longue durée parce qu'il est installé dans ce club. C'est un club qui, n'oublions pas, a un budget, un chiffre d'affaires colossaux.
C'est un des plus riches du monde, côté en bourse.
Qui peut investir, qui pourrait lui offrir un jour un 200-300 millions d'euros sur un joueur parmi les plus chers du monde, et qui pourrait peut-être lui refaire gagner la Ligue des Champions.
À savoir que son nom fuit du côté du Paris Saint-Germain, et parfois, connaissant un peu les coulisses...
Les rumeurs...
C'est des tactiques, qui ne sont pas anodines.
Je pense que pour Mourinho, la Première Ligue est encore bien au-dessus de ce que peut lui offrir la Ligue 1.
Ça dépend aussi comment il voit sa fin de carrière, sa suite de cas. Est-ce qu'il veut arrêter à 60 ans ou continuer plus tard? Parce que José Mourinho pourrait très bien aussi devenir sélectionneur du Portugal. On n'oublie pas qu'il n'a jamais
été... En ayant fait peut-être 10 ans
sur le banc d'une équipe nationale, et que le Portugal, c'est une belle équipe. Pour un technicien comme lui, ça bouclerait un peu la boucle.
Une dernière question à ce sujet. On connaissait l'antagonisme, évidemment, en Liga. On en a beaucoup parlé à l'époque où les deux entraîneurs étaient l'un au Real et l'autre à Barcelone. Ils se retrouvent dans la même ville avec 2 équipes. Est-ce que, malgré tout, cet affrontement, cette confrontation, Nabil, a un peu changé de teneur et est moins violente qu'avant? Mourinho aussi s'est assagi, c'est un peu...
Il peut donner cette impression-là, on va le dire tout de suite. Oui, on va dire ils sont devenus mûrs, raisonnables, sages, mais je vous rappelle quand même que c'est comme dans les séismes, il peut toujours y avoir des répliques, d'autant que aujourd'hui Manchester City est premier, United est deuxième. Imaginez une fin de championnat couteau tiré avec de l'attention. Vous pensez que Mourinho va pas redevenir Mourinho?
Je sais pas.
Moi, je pense que oui.
Là, on va le voir peut-être, Gilles, en fin de semaine, là, parce qu'il va jouer du côté de l'Emirates. Ça sera
avec son grand ami. Mais voilà, il a trouvé un autre rival. C'est-à-dire que Guardiola n'est plus, il a d'autres personnages clés du football anglais avec lesquels parfois c'est plus épidermique, et Guardiola est un peu moins le personnage central contre lequel il s'oppose, parce qu'il lui faut toujours quelqu'un, comme McEnroe à l'époque en tennis, il faut que Mourinho ait quelqu'un à qui s'opposer.
La figure de l'ennemi.
Voilà, là c'est plus toujours Guardiola.
Est-ce que les deux équipes sont aussi antagonistes que le sont historiquement le Real et le Barça aussi, Patrick?
Non, pas vraiment, puisque c'est un club, Manchester City, je ne nie pas le côté populaire et le grand nombre de supporters, mais historiquement, le club dominant à Manchester, c'est United.
Ouais, ce sont les Rouges. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après la pause pour continuer à parler de football ici dans Radio Foot.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
La deuxième partie de Radio Foot International sur RFI avec nos invités, avec Gilles Verdez, Nabil Djellit, Patrick Juillard, avec aussi Éric Chorin et puis le visiteur du jour, hein, et non pas du soir, il s'agit de Jimmy Algerino, être ex-joueur du Paris Saint-Germain. C'était à quelle époque, Jimmy ?
96 à 2001.
Ouais. Vous avez joué avec qui à l'époque, hein, pour situer un peu nos auditeurs, on va dire.
Ben, en arrivant, il y avait Lama, Rai, Leonardo arrivé, Deli Valdés,
JJ Okocha.
JJ après, ouais. Bien après, Paul Le Guen, Vincent Guérin.
Une grande époque.
Ouais, voilà, voilà. C'est l'année où Leonardo joue au PSG, ouais, fait, avec ouais. Donc le match
contre Bucarest.
Contre Steaua Bucarest, voilà. le 3-0, le grand match perdu 3-0 sur tapis vert et le 5-0 extraordinaire au Parc des Princes au match retour.
Il a construit la légende de Jimmy, quoi, en 5 saisons. J'en profite, Annie, parce que moi j'ai été pour le premier match de Jimmy au Parc des Princes, un vieux souvenir. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le Conseil Général à l'époque qui nous donnait des places en tribune.
C'est vrai, oui.
Et je me souviendrai toujours de cette banderole puisque c'était face à l'AS Monaco. Un Monaco pour Jimmy, avec modération évidemment.
Vous vous en souvenez, Jimmy, vous, de cette banderole?
De la banderole, pas. Enfin, je sais que je m'étais blessé et que c'était mon premier match. Il me l'a rappelé tout à l'heure. Et parce que quand je suis passé par Monaco. Et bon, que Monaco ne m'a pas gardé et se retrouver comme ça en Ligue 1 sur le premier match de championnat et puis bah juste après mon arrivée de Châteauroux, donc c'est vrai que c'était un peu le clin d'œil et les supporters l'avaient relevé, quoi.
Bon, et ben voilà, pour situer notre invité à nos auditeurs, parce que c'est pas toujours.
Je faisais des interviews de lui et tout, comme capitaine, etc. Il posait le débat. C'était... Mais il a toujours été droit. Donc il balançait pas assez pour nous. Mais
c'était pas une source.
Mais il était nickel, il était réglo. Ah ouais, super.
Quand on va y arriver, Gilles, s'inquiétait un petit peu parce que.
Bon, vous voyez, nous, on s'éclate à Radio Foot maintenant. Ouais. Et on continue alors donc dans cette actualité avec cette nouveauté, on va dire, les arbitres africains qui vont se retrouver à la page un peu, hein, Patrick Juillard, à l'heure de la technologie. Eh bien, la Confédération africaine a elle aussi décidé de tester l'assistance vidéo dans une compétition. Ce sera au Maroc, Eric, ce sera la première fois pendant le CHAN.
Le championnat d'Afrique des Nations qui est donc réservé aux joueurs qui jouent en Afrique, hein, donc des équipes nationales mais que avec les joueurs locaux, pas forcément du pays mais du continent, ce qui la distingue un petit peu de la CAN. En plus, une CAN qui va maintenant être surdimensionnée, hein, avec un grand nombre d'équipes, alors que
et
là on
été.
Va rester
et
en été, là on va rester à 16 équipes, hein, sur le CHAN, et ça va commencer au stade des quarts de finale.
L'arbitrage vidéo.
Oui,
pas la compétition.
Peut-être une précision tout de suite, je sais pas. Ouais. L'arbitrage vidéo, c'est différent de la goal line technologie. Là, c'est vraiment pour arbitrer. Non, mais c'est peut-être nécessaire à préciser.
Sur quel point?
C'est pas encore bien clair.
Pas précisé. Énuméré, disons, les cas soumis à l'assistance possible de la vidéo. Maintenant, c'est pour moi le principal débat. C'est pas la vidéo en soi, c'est comment on l'utilise. C'est-à-dire que moi, je suis pour la vidéo dans l'absolu si elle peut résoudre des cas clairs et nets et éviter des erreurs grossières comme le cas du but marqué par Messi et refusé alors que le ballon était rentré d'un mètre en Liga le week-end dernier.
Mais ça n'arrive jamais en Afrique, ce genre d'erreur, Patrick.
Ah si, moi je vous rappelle.
Et maintenant, sur d'autres cas, la vidéo ne va pas résoudre par magie toutes les difficultés d'interprétation de certaines situations ambiguës.
Et pourtant, c'est de la magie, Patrick, tu devrais le savoir. Juste truc, j'ai discuté avec Saïd Njimi, l'ancien arbitre international. On s'est retrouvé, on a parlé de cette histoire de vidéo, et lui, me soumettait un peu sa théorie, et je trouvais que, enfin, moi, ça me paraissait très bien. Lui était pour l'arbitrage vidéo de manière binaire, c'est-à-dire 0 ou 1. C'est-à-dire que sur un pénalty, non. Par exemple, quand il y a une faute sur un pénalty, parce que c'est de la libre interprétation, et ça va prendre du temps. Donc, binaire, c'est soit
hors-jeu,
des trucs bien tranchés.
Dans la
bien
surface,
clair.
Pas dans la surface.
Pas subjectif.
Voilà, exactement.
Donc.
Des choses binaires. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation subjective, ça tue.
Je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire, pour moi, la vidéo, c'est
polémique, donc.
Efficace pour les cas où on peut vraiment décider oui ou non. Effectivement, un pénalty, si vous le montrez à 10 arbitres, il y en a 6 qui vont vous dire oui, il y a faute, et 4 ou 3 qui vont vous dire non, il n'y a pas faute, c'est l'attaquant qui exagère. Donc, comment on fait?
Gilles.
Moi, je suis totalement contre.
Mais oui, bon, puisque les
robots,
c'est votre côté réactionnaire.
Pas du tout. Je suis pour l'homme, et contrairement à vous, pas pour le primo côté de la machine sur l'homme. Mais bon, voilà, ça évolue. Là où je ne comprends pas la décision des instances africaines, c'est dans la précipitation, non pas d'autoriser, mais d'imposer ça à une compétition, alors qu'on ne sait même pas dans quel cadre exact ça va se dérouler. On ne sait pas pourquoi la vidéo. Alors donc, on va faire appel aux arbitres déjà formés par la Confédération africaine pour potentiellement
en
aller
pensant
à la Coupe du Monde. Vraiment, je trouve que cette décision est précipitée. Elle n'avait pas lieu d'être. Je ne la comprends pas et je la désapprouve.
Moi, je suis complètement pour. Et vous, le rebelle aux cheveux longs, Gilles, vous êtes évidemment contre l'injustice. Et si ça peut permettre, parfois, d'éviter des cas d'injustice, bon... Je suis pas pour qu'on tue l'émotion, je suis pour que ça soit à dose homéopathique.
Vous vous souvenez quand même de ce match France-Espagne ici en amical où cet arbitrage vidéo tuait toute.
Alors Annie, je vais vous donner un cas.
Toute émotion.
Je vais vous donner un cas précis. Vous êtes employé, ça fait 3 ans que vous préparez un projet, donc vous êtes sélectionneur, ça fait 3 ans que vous travaillez sur un projet détail par détail. Je prends l'exemple de Vahid Halilhodžić qui joue un match au Burkina Faso avec l'équipe d'Algérie. 3 ans de travail ont failli être annulés par un pénalty sifflé en dehors de la surface avec un défenseur qui met les mains derrière le dos. Si on peut éviter ce genre de choses, moi, je suis pour.
Donc ça devient le football américain, vous arrêtez les actions.
On a des oreillettes qui indiquent à l'arbitre ce qu'il en est s'il n'a pas vu. C'est pas,
alors, Jimmy, est-ce que vous auriez aimé qu'existe l'arbitrage vidéo de votre temps?
Enfin, nous, on l'a pas eu, donc, enfin, pour moi, je reste
sur cette... Vous faisiez sans.
Ouais, voilà. Après, on peut trouver un mix. Le truc du tennis, là, le challenge, je trouve que c'est pas mal. Avoir une ou deux possibilités, parce que c'est vrai que des fois, dans un match, il peut ne rien se passer, comme peut-être avoir beaucoup de situations, ou peut-être polémique. Il va y avoir besoin de, polémique, ou il va y avoir besoin de la vidéo.
C'est plus facile à mettre en place, vu qu'il y a que deux intervenants, quoi. Ouais. Les deux joueurs face à face avec une équipe, c'est un peu compliqué. Là, dans le cas de l'Afrique aussi, on est dans un contexte où il y a eu des polémiques encore très sérieuses lors des éliminatoires de la CAN avec ce match à rejouer qui finalement comptera pour Duber entre l'Afrique du Sud et le Sénégal.
Faut dire la vérité.
Attention Nabil, s'il y a des matchs achetés, il sera possible d'acheter des arbitres vidéo.
Mais il y a aussi des matchs sous pression.
Regardez en Allemagne.
Oui, ils ont changé le superviseur de la vidéo qui était accusé d'être à la solde d'une équipe et d'influencer le jugement.
Ils en ont mis deux à sa place, Patrick.
Mais ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi des aberrations avec l'arbitrage sans vidéo. Donc, il ne faut pas jeter la vidéo sous prétexte que c'est pas encore
on est en train de dire juste que c'est pas
parfait. Moi, je pense que cette décision a aussi des arrière-pensées politiques. C'est-à-dire que n'oublions pas que le CHAN aura lieu au Maroc. Mm-hmm. Le Maroc qui est postulant pour organiser la Coupe du Monde
2026.
Voilà. Donc, ils veulent peut-être donner l'image d'une compétition vraiment aux normes FIFA les plus en pointe.
On voit très bien surtout que la CAF et la FIFA marchent main dans la main en ce moment, parce que vous parlez de précipitation en Afrique, on avait vu cette précipitation aussi sur le plan international.
Ah mais je la rejette tout autant, l'exception africaine. Même l'Afrique tombe dans le piège.
Oui, mais l'exception africaine aussi, c'est le texte lui-même de la Confédération africaine parlant de cette introduction, qui dit qu'il faut faire taire les critiques sur l'arbitrage africain et rivaliser avec les autres confédérations, c'est-à-dire admettre d'entrée de jeu
l'arbitrage africain est moins bon en fait.
Moins bon, en tout cas plus contesté.
C'est le point noir. C'est un des points noirs du football continental et j'appelle.
Mais l'améliorer passe-t-il seulement par la technologie et l'arbitrage vidéo?
Non, ça passe par la formation évidemment des arbitres.
D'ailleurs, les arbitres africains sont cette semaine en séminaire.
Mais bon, quand vous discutez avec des sélectionneurs et ils savent qu'ils vont jouer un match à l'extérieur et que sur 10 coups de sifflet, il y en a 9 pour l'équipe adverse, il y a un moment, c'est fatigant.
Dans le même communiqué, on apprend quand même que le département d'arbitrage de cette Confédération africaine de football va se doter d'un département vidéo, ce qui veut dire quand même qu'il y avait quand même un gros déficit de ce côté-là, même pour eux, pour pouvoir observer les matchs.
RFI sera évidemment au Maroc pour le CHAN et donc observera de très près, parce qu'on est toujours dans l'attente. Au mois de janvier, n'aura pas été prise la décision pour la Coupe du Monde. Elle devra être prise par le board, comme on dit, c'est-à-dire ce groupe qui s'occupera de ça. Hein. C'est ça, Gilles, au mois de mars.
Il commence à y avoir des polémiques. Exactement. Certains étant favorables, d'autres détracteurs.
Le président de l'UEFA s'est déclaré contre l'utilisation ou le recours de la vidéo.
Et il a tout mon soutien. Ce dont il se moque éperdument.
Alors passons, restons en Afrique pour évoquer la liste des meilleurs joueurs africains. Cette liste donc vient d'être publiée. On aura une grande fête des Awards, comme on dit, puisqu'on n'utilise pas là plus le mot Ballon d'Or, n'est-ce pas, Patrick?
Non, ils veulent pas.
Oui, mais ils ont d'ailleurs raison en France qu'on ne banalise pas trop ce terme. En tout cas, ça sera le 4 janvier prochain à Accra, au Ghana. Donc, on a deux listes en fait, et vous en avez l'habitude, vous les auditeurs, parce que c'est maintenant devenu habituel chaque année. On a le joueur africain de l'année. Ensuite, on a le joueur africain, mais basé en Afrique. C'est un peu la différence entre la CAN et le CHAN, finalement.
Et il y en a un qui est dans les deux listes. Donc, on peut se demander.
Un seul.
Il y en a un qui est dans les deux listes. C'est Denis Anyango, le Kenyan des Mamelodi Sundowns.
Ougandais.
Oui, c'est vrai. C'est Oliek, le Kenyan, je confonds toujours. Que des Mamelodi
Sundowns. Ils s'appellent Denis tous les deux, c'est normal.
oui, ça c'est un peu. On pourrait se demander, du coup, si c'est pas lui qui va d'office gagner le titre de joueur africain de l'année basé en Afrique, bah, puisqu'il est dans la liste.
Oui, mais
c'est deux
votes différents. Hein.
Ce sont deux votes séparés.
Ouais. Moi, je fais partie des votants, hein, donc je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, mais oui. Donc simplement, j'étais un peu étonné sur les premières listes de 30 noms de l'absence de certains joueurs. L'absence de Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais de Naples, ouais, de la première liste sur 30, c'est quand même incroyable. Hakim Ziyech, le Marocain. Même Riyad Mahrez, même s'il fait pas une saison exceptionnelle, c'est quand même le tenant du trophée. Exactement. Il n'était même pas dans les 30.
Oui,
ceci dit, donc pour moi, il y a des favoris qui se dessinent. Bon, pour le joueur africain de l'année, ça va se jouer entre Mohamed Salah, Sadio Mané,
les deux de Liverpool,
et Aubameyang et peut-être Naby Keita.
Je rajouterai Vincent Aboubakar, qui est sous-estimé, qui a marqué quand même un but exceptionnel.
En finale de la CAN, c'est vrai.
En finale de la CAN. Et ensuite, j'ai un peu regardé ses statistiques. C'est quand même 16 buts en 19 matchs avec Porto. 14 en 17 avec Besiktas. Je pense qu'il
mais
fait
le
quand
Cameroun
même
n'est
la...
pas qualifié pour
il
le
fait
monde,
quand ouais. même partie de la discussion.
Le problème c'est qu'il est pas dans un des grands clubs, même ils font partie de la Ligue des champions. Mais c'est vrai que quand vous êtes à Liverpool, on vous met plus en valeur. Et, ouais, je dis pas que c'est une bonne raison, un ami, mais c'est peut-être ça.
A terminé premier de son groupe devant Monaco dernier demi.
Maintenant oui, récemment. Gilles.
Pour moi, au niveau des joueurs, la liste se restreint à deux, les deux joueurs offensifs de Liverpool qui dominent. Pour moi largement, Aubameyang.
Salah finaliste de la CAN, hein,
voilà.
Déjà avec
Sadio Mané, son rival et coéquipier. Pour moi, Aubameyang cette fois est un peu en retrait.
Oui, parce qu'il est insuffisant en sélection.
Oui, et puis l'actualité autour de lui est moins bouillonnante, un peu moins positive.
Oui, Dortmund va un petit peu moins bien, mais bon, il reste l'homme qui sauve Dortmund pratiquement chaque fois. Hein.
Absolument, mais voilà, il faut élire le meilleur. Donc pour moi, ce sont les deux joueurs offensifs de Liverpool qui ont chacun des profils un peu différents, des complémentarités, des qualités. Je pense que l'Égyptien Salah cette saison présente quand même un tout petit
notamment sur la CAN, il est finaliste, probablement le meilleur joueur, même si la CAF avait désigné Bassogog, qui est d'ailleurs pas dans la liste des 10, il était dans celle des 30. Hein.
En fait, vous votez, mais vous cassez complètement la liste.
Je vote pas. Ah non, mais il était dans la liste des 30, Bassogog.
Il est pas dans la
short list.
En revanche, Salah n'est pas dans la liste, ne fait pas partie des Africains qui ont été nominés dans la liste pour le Ballon d'Or, ils sont toujours que deux, c'est Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc la CAN pourrait faire la différence,
les
vous pensez,
sur pas tout à fait les mêmes, c'est-à-dire que la CAF dans ses listes, et c'est bien normal, elle crédite un peu plus ses propres compétitions, en l'occurrence la CAN. Mm-hmm. Alors Sadio Mané avait fait une bonne CAN, mais il a malheureusement raté le tir au but qui a précipité l'élimination du Sénégal, donc c'est pas trop à son crédit.
En tout cas, c'est un vraiment haut niveau quand même, hein. Alors tous les ans, mais là je trouve que la liste reflète des performances de joueurs qui brillent vraiment dans
avec
leur championnat.
Équipes, ah oui,
et avec leurs équipes de club aussi. Et dans
juste
leur championnat.
Un petit mot sur les joueurs locaux. Il y a évidemment les joueurs de Al Ahly et du WAC Casablanca qui sont bien les représentés. Équipes, ça pourrait jouer peut-être entre Ben Sharki et Ali Malou, les juniors Adjaï de Al Ahly. Dans cette liste-là.
Mmh. Parmi les joueurs africains dont on parlait pour le meilleur de l'année, Jimmy, il y en a un qui, vous paraît plus un des favoris, finalement.
Oui, Salah,
l'Égyptien, hein, vraiment,
vous
aussi.
Vraiment, une belle progression en plus, et quand on me confirme à Liverpool, donc c'est vraiment...
Oui, oui.
Et ouais. puis c'est peut-être le plus régulier sur l'année puisqu'il fait déjà une très bonne fin de saison l'an dernier avec l'AS Rome, une superbe Cannes. non mais il a 10 buts déjà en première ligue en 14 matchs. Bon c'est impressionnant.
Après je ne sais pas si ça rentré dans les critères là pour sélectionner cette liste de 11 finalistes, mais on a 10 pays différents représentés. Il y a juste deux Sénégalais, donc une belle représentativité du continent, et il y a aussi des championnats européens différents. Il y a deux joueurs du Portugal, deux en Allemagne, deux en France, trois en Angleterre et un en Afrique du Sud. C'est pas si fréquent finalement qu'on ait un panel aussi large de nationalités représentées.
Je suis désolé de rebondir là-dessus. J'entends, je trouve que c'est très bien, mais il va falloir qu'on m'explique ou qu'on nous explique comment on fait pour pas mettre Ziyech ou Koulibaly, quoi. Koulibaly, c'est un des cinq meilleurs défenseurs centrales.
Ah bah c'est Nabil, c'est un Africain. Il était même pas dans la pré-liste. Donc, c'est,
ah, je suis on pouvait même pas voter pour lui. De mettre le doigt là où ça fait mal. Mais tant qu'à faire bien les choses. Alors je sais pas, peut-être parce qu'il y avait déjà deux Sénégalais, on voulait pas en mettre un troisième. Koulibaly, ça devait être 60 millions d'euros la saison dernière à Chelsea. Peut-être le plus gros transfert de tous les temps d'un joueur africain.
Non, et c'est surtout un des cinq meilleurs défenseurs évoluant en Europe aujourd'hui.
Non mais après dans ces listes-là, il y a toujours des possibilités de contestation, ça reste subjectif.
Mais là c'est quand même une aberration.
Non mais c'est comme si j'oubliais pour le Ballon d'Or Hummels, quoi. C'est à ce niveau-là, quoi.
Oui, alors sauf que tant Koulibaly qu'Hummels n'auront pas le Ballon d'Or. Non, mais... Voilà où la polémique est quand même restreinte. Ouais, voilà, c'est une polémique d'entrée de liste. Je suis d'accord avec vous, mais ça ne changera pas, même les trois premiers ne seront pas chamboulés par cet oubli.
Ça fait perdre du crédit quand même à la liste et au trophée, quoi.
Pas facile, Jimmy, pour un défenseur d'être ballon d'or. Ça servira à rien. Pour les départager.
Ouais, c'est sûr que quand on marque pas des buts, avoir des récompenses individuelles, c'est plus compliqué.
C'est compliqué, ouais. C'est comme ça, mais bon, c'est eux aussi, c'est les buteurs qui...
C'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands défenseurs dans le football d'aujourd'hui, en 2017, et il est vraiment regrettable de ne pas distinguer un défenseur aussi fort que Kalidou Koulibaly.
Et Goulam de Naples aurait pu très bien y être, je ne sais pas s'il y est, mais c'est
ouais,
pareil.
Mais alors Goulam, il est un peu pénalisé par les prestations médiocres de l'Algérie. Parce que c'est basé sur équipe nationale et club.
Je vous laisse libre de vos problèmes.
Mais moi, je peux le dire, Nabil.
Allez, on élargit le champ. On va partir du côté de l'Est de l'Europe.
So we can expect fantastic matches.
Quelques mots de russe dans une chanson qui sera l'hymne de la compétition qui se déroulera donc au cours de l'été en Russie.
Donc c'était du russe, d'accord.
Donc c'était du russe, mais bon, la globalisation fait qu'on les cherche, les tonalités de russe. Mais en tout cas, Guillaume Munier a réussi à trouver cette chanson qui rythmera l'ouverture des stades. Hein. En général, c'est ça, Eric, hein, quand on arrive dans le stade, on entend ça au moins 10 à 15 fois.
Ah, celui-là, je ne sais pas, mais effectivement, on finit par s'habituer aux hymnes.
Voilà, exactement.
C'est souvent la chanson la plus détestée.
Il faut s'habituer
à
l'hymne de la FIFA aussi. Hein.
Oui, c'est encore pire. Hein. C'est on s'habitue pas.
Enfin, de toute façon, en Russie, après un ou deux verres, c'est toujours l'hymne à la joie.
Hein. Ah ouais.
Alors, la Coupe du Monde, figurez-vous, eh bien, que la Coupe du Monde a son affiche à deux jours du tirage au sort de la compétition mondiale que vous pourrez suivre sur RFI. Évidemment, nous serons là et nous serons en direct. Olivier Pron est en chemin vers Moscou. Eh bien, les Russes ont donc présenté leur grande affiche, ce qui sera le symbole et l'emblème de la compétition. Elle a d'ailleurs été placardée dans le métro de Moscou aussitôt. Gilles, est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette affiche, avant de nous donner votre opinion sur cela?
Alors, elle représente un gardien de but, en l'occurrence Lev Yashin. On parlait de défenseurs ou de joueurs défensifs qui ne peuvent plus être primés. Bah, lui a été le seul à être ballon d'or en 1963.
On va y revenir sur Lev Yashin.
Voilà, donc c'est une sorte de retour vers lui. Il est en élévation, il tend les bras. Et puis, il y a une sorte d'auréole et il y a 12 faisceaux autour de lui qui représentent également les 12 stades qui seront à l'honneur durant cette Coupe du Monde. Donc, c'est une affiche qui est censée réunir... presque l'esprit soviétique. Alors je prends pas du tout parti politiquement en disant ça, mais c'est le but, hein, c'est de réunir l'URSS et la Russie d'aujourd'hui dans une affiche qui est à la fois pour les anciens et pour les jeunes avec les 12 stades. Je la trouve magnifique. Elle est un peu comme ces clichés couleur pastel. Simplement, le petit regret, c'est qu'elle n'est pas tout à fait destinée aux 15-24 ans. C'est plutôt une affiche pour l'âme du football.
Vintage, comme on disait.
Vintage et poétique.
Parce que vous avez oublié la casquette quand même de la Via Chine.
Hein. Absolument.
On est vraiment...
Oui, oui. 24 ans, fallait la mettre en...
Oui, oui.
Avec des couleurs... Avec effectivement des couleurs dans les orangés.
C'est
Pierre.
C'est Pierre.
Et le design.
Un lettrage et un graphisme très proche des affiches socialistes.
Ressortez vos vieux miroirs, miroir du sport, du foot et tout ça. Vous avez exactement ce genre de photo à l'époque. C'était en noir et blanc.
C'est une belle affiche. Enfin, au moins, elle est typée. Elle a quelque chose.
Ils appellent ça post-constructiviste. C'est leur style qu'ils veulent remettre à l'honneur à l'aune de cette affiche.
Et à défaut de lutte des classes, ça sera la lutte des places en Russie.
Ah oui, c'est
ça. Les stades sont pleins.
Ouais. Oui, paraît-il qu'ils ont déjà vendu plus de 700 000 places. En tout cas, c'est officiellement et selon la FIFA. En tout cas, Lev Yashin, on parlait tout à l'heure de ces gens qui, de ces joueurs hein, qui sont plutôt à l'arrière et qui sont rarement primés. Et on s'était en tout cas attristé ici dans Radio Foot que par exemple Neuer, l'année où l'Allemagne est championne du monde, ne soit pas récompensé par un ballon d'or. Là, Lev Yashin, c'est une légende quand même. Même pour vous, Jimmy.
Ah oui, c'est le genre de joueur qui donne envie de pratiquer le football.
Et même d'aller dans les cages.
Enfin, moi j'ai commencé gardien tout petit, donc mais c'est vrai que ça fait rêver. Enfin, le foot sert à ça, faire rêver les enfants, les adultes, tout le monde, et pour réunir et pour essayer que ça soit la fête. Et ce genre de joueur, bravo à la Russie, aux organisateurs du moins, d'avoir pensé à le mettre à l'honneur et de faire une si belle affiche.
Ça rappelle aussi l'école de gardien de but russe, puisqu'il y a eu non seulement Yashin, mais il y a eu ensuite Rinat Dasaïev dans les années 80.
Akinfeyev.
Aujourd'hui, Akinfeyev, qui reste un grand gardien qui a pas fait la carrière qui est peut-être la plus éclatante qui soit. Il avait fait sa carrière en Russie sans trop bouger, mais voilà, c'est un pays qui a toujours formé de grands gardiens.
Et c'est amusant, c'est sur l'affiche, il est comme ça, ce que vous dites, en extension et habillé en noir, mais c'est son surnom était aussi...
L'araignée noire. Voilà. Absolument. Oui. Donc c'est un hommage. Alors, les critiques, parce qu'il y en a quand même en Russie, il y a vite des polémiques et elles sont tout à fait recevables, c'est de dire oui, on rend hommage à Lev Yashin parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un joueur qui lui arrive à la cheville et vu notre sélection.
C'est pour ça. On a l'impression aussi de glorifier un passé où le football était en tout cas primé et remportait des titres. 1960 avec Yashin, il gagne l'Euro.
C'était religion d'État dans l'ex-Union soviétique comme dans les ex-pays socialistes parce que ça permettait d'avoir une vitrine de rayonnement. C'était pas qu'aller sur la Lune, la lutte, la guerre froide avec l'Union, avec les États-Unis. C'était aussi à travers le sport, mais je crois qu'il y a déjà eu plein d'émissions à ce sujet-là. Mais vous posez une vraie question parce que c'est qui la star de la Russie quand on connaît aujourd'hui le potentiel démographique, le potentiel démographique de la Russie, l'argent, il y a beaucoup d'argent en Russie, il y a quand même des clubs puissants.
Il y a des milliardaires qui ont aussi des clubs
après
en Russie.
Après l'effondrement du mur de Berlin, je veux bien qu'il y ait eu des spasmes, qu'il y a eu le besoin de se reconstruire, parce qu'elles étaient adossées soit à la police, soit à l'armée, soit à des entreprises étatiques. Mais concrètement, quand on connaît le potentiel de la Russie, franchement, ça reste globalement pauvre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas arriver en quart de finale ou en demi-finale sur des vertus collectives et parce qu'ils organisent
grâce à l'arbitrage.
Mais on parlait tout à l'heure de liste du Ballon d'Or. La liste du Ballon d'Or. Est-ce qu'il y a un Russe?
Non.
Alors, il faut aussi voir que l'équipe du RSS à l'époque, c'était l'équipe de toutes les républiques, y compris l'Ukraine, avec des joueurs exceptionnels comme Blokhin. Aujourd'hui, c'est
l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan,
la Géorgie,
il y avait tout ça.
David Kipiani, et on peut en citer d'autres. Des joueurs qui n'étaient pas russes d'origine.
Les meilleurs joueurs étaient ukrainiens. Souvent.
Il faut bien évidemment pas prendre parti politiquement, mais l'éclatement de le RSS comme l'éclatement de l'ex-Yougoslavie fait que au niveau des clubs et des écoles de football, les styles de l'époque n'ont pas été compensés par de nouveaux styles. Aujourd'hui, il y a très bons joueurs, il y a très bonnes équipes qui se qualifient pour le mondial, mais il n'y a pas encore un renouvellement des formations. Ça a perdu à ce niveau-là. La décentralisation, là, l'éclatement a fait qu'il n'y a plus ces grandes puissances avec des styles. Moi, je me souviens avoir été un peu clandestinement, mais dans les entraînements à une certaine époque du Dynamo de Kiev, c'était une stratégie d'État au service du football.
On parlait de religion. On l'a vu dans d'autres sports.
C'est la période Lobanovski, en fait.
Absolument.
Qui était un très grand entraîneur.
Et il n'y a plus ça aujourd'hui. Donc il faut retrouver ça. Mais ça va se faire, mais ça prend du temps.
Mais la Coupe du Monde va leur permettre peut-être plus de redémarrer que finalement d'être la finalité de quelque chose.
Et en termes d'image, en tout cas, en amont de cette Coupe du Monde, cette affiche un peu glamour, vintage. C'est un beau coup et vintage, c'est un beau coup de communication, alors qu'elle a du mal, cette Russie, à nous faire rêver, cette Russie de Vladimir Poutine. Il vaut mieux avoir Lyavyachine sur l'affiche Vladimir Poutine lui-même sur l'affiche, c'est à peu près le seul qu'on aurait pu imaginer à la place de Lyavyachine.
Pour moi, la Russie, c'est pas Vladimir Poutine.
Non,
c'est... La Russie, c'est d'abord les Russes.
L'âme russe.
Bah non, mais c'est vrai, il y a tellement, c'est un pays tellement riche.
L'âme
slave. Il y a tellement de choses à voir.
Lyavyachine, premier ballon et unique ballon d'or en tant que gardien de but en 1963. Ouais. Et vainqueur donc de l'Euro en 1960, dans une finale contre la Yougoslavie d'ailleurs, donc à l'époque où les blocs existaient encore. Et il avait remporté la médaille d'or des JO à Melbourne avec l'URSS.
Ils allaient en finale ou en demi-finale très régulièrement à l'époque.
Tu gardes un maillot de l'URSS.
Oui, CCCP, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, c'est la fin de ce Radio Foot International. Ben oui, sur ces images vintage qu'on a tous dans la tête. Et évidemment, vous pouvez aller regarder cette affiche sur la page Facebook de Radio Foot International, puisque Pierre Guérin l'a mise pour que vous puissiez tous l'admirer. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Jimmy.
Merci, Algerino.
Eh bien, faudra revenir dans Radio Foot International. Merci aussi à Guillaume Munier qui était aujourd'hui à la réalisation. On se retrouve évidemment, demain et vendredi, eh bien, nous serons là pour vous faire part du tirage au sort de cette Coupe du Monde. Demain, nous aurons Vikash Dorasso, l'ancien international français, qui sera dans l'émission. Merci à tous et à demain.